De culte, on a passé un bon temps de louange. Voilà, Dieu a vraiment conduit et je crois qu'il conduit encore pour ces temps de prédication ce matin. Je vous propose de lire un passage dans l'évangile de Luc, un passage qui prend place autour d'un repas. Alors, c'est pas encore l'heure de manger, mais Jésus est à table et on va voir ensemble ce qui se passe. Donc, c'est le 7e chapitre de l'évangile de Luc, et on va lire le verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Dans la culture orientale, aujourd'hui, comme à l'époque d'ailleurs, eh bien le fait de se mettre à table avec quelqu'un, c'est un signe d'alliance, un signe qu'on est en accord avec cette personne. Et quand il y avait eu des conflits entre deux personnes, eh bien, lorsque ce conflit était résolu, eh bien, les personnes se retrouvaient autour d'un repas pour partager le pain ensemble. Ce qui a donné plus tard un mot que nous connaissons bien, le mot copain, parce qu'on partage le pain. Et ça se passe autour du repas. Ça nous montre justement qu'on est en paix, qu'on est en accord. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus vient dans la maison de ce pharisien. Et se produit alors un événement inattendu qui nous est rapporté dans chacun des quatre évangiles. Il n'y a pas tant d'événements que ça qu'on retrouve dans les quatre évangiles. Donc ça nous montre l'importance de ce qui va se passer. Et voici ce que Luc écrit. On arrive au verset 37. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Face à cette situation, comment vont réagir les autres invités? C'est une vraie question, parce que quand on est témoin d'une scène comme ça, quelle est notre attitude? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble ce matin. On va commencer avec certains des invités, ce sont les disciples, parce que, ben, on le sait, Jésus ne se déplace pas tout seul. Les disciples l'accompagnent. Ils l'accompagnent même tous les jours, où qu'il aille, quoi qu'il fasse, les disciples sont là. Et ils ont déjà vu plein de miracles quand on arrive à ce stade-là de l'histoire. Et ce sont vraiment les personnes les plus proches de Jésus. Alors, leur attitude, elle est là aussi pour nous parler, parce que nous aussi, on est là, on veut suivre Jésus, on veut marcher avec Jésus chaque jour. Alors, comment vont-ils réagir? Il est important de préciser que la Bible nous apporte quelques informations supplémentaires sur ce parfum qui est versé. Dans Jean 12, au verset 3 d'abord, on voit que c'est une certaine quantité, c'est un demi-litre de parfum. C'est quand même déjà une bonne quantité. Dans Matthieu 26, au verset 7, on voit que c'est un parfum de grande valeur. Et dans Marc 14, au verset 3, on sait que c'est un parfum de nard, donc c'est quelque chose vraiment de très concentré, de nard pur, très cher. Et la réaction des disciples lorsque ce parfum est versé sur les pieds de Jésus, elle est assez inattendu. On va voir ça. Donc Matthieu 26, verset 8. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : à quoi bon un tel gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. Matthieu nous parle d'indignation. C'est quoi l'indignation ? C'est pas un mot si facile, hein ? Alors j'ai pris le dictionnaire et j'ai regardé exactement c'est quoi l'indignation. Dans le Robert, voici ce qu'il nous est dit. Il nous est dit que c'est un sentiment de colère qui soulève une action, que soulève une action qui heurte la conscience morale, qui heurte le sentiment de la justice. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort en fin de compte à travers l'indignation. Et pourtant, les disciples, ils ne savent rien de cette femme. Ils se mettent en colère face à ce qu'ils voient. Finalement, ils sont dans un état d'esprit qui est plutôt celui du jugement vis-à-vis de cette femme. Ils ne la connaissent pas, ils ne connaissent pas ses motivations. Et on aurait pu penser que Matthieu, en tant qu'ancien collecteur d'impôts, il nous aurait donné quelques éléments de plus sur la valeur pécuniaire, en argent, de ce parfum, mais ce n'est pas lui qui le fait, c'est Marc. Marc, voici ce qu'il nous dit dans Marc au chapitre 14, verset 4. « Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et il s'irritait contre cette femme. Donc on est toujours dans le même état d'esprit. Est-ce que vous savez ce que ça représente, 300 pièces d'argent ? Alors, à l'époque, pour vous donner une petite idée, une pièce d'argent ou un denier, ça représente le salaire, le salaire quotidien d'un ouvrier. Donc quand vous travaillez, eh bien, vous gagnez une pièce d'argent par jour. Donc 300 pièces d'argent, quand on enlève les shabbats où on ne travaille pas, quand on enlève toutes les fêtes qu'il y a lorsque on suit le calendrier juif, eh bien ça fait un peu plus d'un an de salaire en fait. C'est la valeur de ce parfum. Donc ça a vraiment une grande valeur. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais pour l'instant, on avait l'impression que c'était un peu tous les disciples qui avaient cette même réaction. Mais Jean nous apporte une précision. Jean, au chapitre 12, verset 4, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Donc, ce n'est pas forcément tous les disciples qui réagissaient de la même manière, mais c'est un disciple parmi eux qui, à travers son attitude, entraînait les autres, en fin de compte. Mais la remarque que fait Judas, elle est très intéressante, de se dire « Ah, mais il y a des pauvres, il y a des gens qui auraient besoin de cet argent, ce serait bien, ce aurait été mieux que l'on puisse utiliser cet argent différemment qu'en le versant par terre. » Ce sont vraiment, quelque part, des motivations qui sont des belles motivations. Comme ça. Sauf que Jean nous révèle aussi le dessous de l'affaire. Au verset 6, donc juste après, il nous dit que Judas disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas montre à l'extérieur l'apparence d'un disciple. Il partage le repas avec Jésus. Il parle d'utiliser les ressources pour ceux qui en ont besoin. Il se met même en colère pour défendre tout ça. Et pourtant, au-dedans, on le voit, eh bien, ça n'est pas du tout ça. Au-dedans, Jean nous dit que finalement, c'est un voleur, un traître, un égoïste. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ce passage, moi, ça me choque, en fait, de se dire qu'un disciple peut avoir cette attitude-là. Comment est-ce qu'il peut se comporter aussi mal, en fait ? Mais en même temps, ça me fait réfléchir à ma propre attitude. Comment est-ce que moi, je me comporte, finalement, dans la vie de tous les jours ? Est-ce que ça m'arrive de juger quelqu'un que je ne connais pas parce que j'ai vu quelques détails de sa vie ? Est-ce que ça m'arrive de me mettre en colère parce que je ne suis pas d'accord en essayant d'entraîner les autres avec moi, comme l'a fait Judas d'ailleurs ? Est-ce que ça m'arrive de proposer quelque chose qui semble être pour le bien de tous alors qu'en fait, c'est surtout moi que ça arrange ? C'est des vraies questions, hein. Et les réponses ne sont pas toujours celles que j'aurais voulu donner. Et Jésus va répondre à Judas et répondre à l'ensemble des disciples. Dans Jean, au chapitre 12, pardon, verset 7, Jésus dit à Judas, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et dans l'évangile de Marc, on a un peu plus d'informations. Dans Marc, chapitre 14, verset 6, « Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité. Partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » En fait, cette femme, elle ne correspond pas vraiment aux critères de spiritualité des disciples, mais elle est en train de faire la volonté de Dieu. Elle a agi même de façon prophétique, Jésus nous le révèle. Et il dit que c'est une bonne action qu'elle a faite envers lui. Et ça, il faut bien le dire, ça m'encourage à surtout ne pas juger les gens, à ne juger personne. Même si l'attitude de ces personnes pourrait me paraître choquante, choquante par rapport à ma culture, choquante par rapport peut-être à mes habitudes, choquante par rapport à ce que j'identifie comme spirituel ou non spirituel. Finalement, ce que moi j'en pense, ça n'a pas d'importance. C'est ce que Jésus pense qui est le plus important. Et forcément, quand je me rends compte de toutes les fois où je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je ne peux que demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où mes pensées n'ont pas été les bonnes. Mais ça m'encourage aussi, dans l'autre sens, à agir comme cette femme. Elle est jugée par les autres. Pourtant, elle vient de faire un sacrifice important. Elle a versé un an de salaire en parfum sur le corps de Jésus, sans rien attendre en retour. Simplement, elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Tout ça pour le Seigneur. C'est vrai, certains voient ça comme un gaspillage. C'est ce que les disciples pensent. C'est un gaspillage. Mais aux yeux de Jésus, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Au point que ça s'est passé il y a 2000 ans, cette histoire-là. Eh bien, on s'en rappelle encore. On continue de parler de cet événement. Jésus l'avait promis et ça continue de se produire. Les évangiles de Matthieu, de Marc et de Jean nous parlent vraiment de l'attitude des disciples. On vient de lire ensemble ces passages-là. Mais l'évangile de Luc, il va se concentrer sur une autre personne. Il va surtout nous parler de l'hôte du repas, c'est-à-dire le pharisien qui a invité Jésus. Et on va voir que, il a une attitude qui est différente aussi de celle des disciples. Alors, regardons tout ça ensemble. On est donc dans la deuxième partie. Voici donc le premier élan que va avoir ce pharisien. C'est dans Luc au chapitre 7 et verset 39. Donc Luc chapitre 7, verset 39. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Autrement dit, ce pharisien, il ne fait pas que juger cette femme. Il juge aussi Jésus. Et c'est vrai, quand on se place dans la situation en tant que pharisien, il a une très grande connaissance des Écritures. C'est même un spécialiste, une référence dans le domaine. Il estime que ce que fait Jésus n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou plutôt n'est pas conforme à sa façon d'interpréter la parole de Dieu, pour être plus juste. Mais justement, Jésus, en vrai, il sait qui est cette femme. Il le sait très bien. Il le sait parce que il est Dieu, donc il sait toutes choses. Mais pas seulement. Ce n'est pas la première fois qu'il la voit. Dans Jean 11, au verset 1, on a un peu plus d'informations sur qui elle est. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Il est malade dans le chapitre 11, et même il meurt dans le chapitre 11. Mais Jésus vient et le ressuscite. Et ce repas a lieu au chapitre 12. Et voici ce qu'il nous a dit au début du chapitre 12, à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie, elle a vécu un miracle. Elle a vu la résurrection de son frère. On peut même assez facilement imaginer qu'elle en a vu d'autres. Mais déjà, une résurrection, c'est quelque chose. Elle a compris qui était Jésus. Et pour reprendre ce que sa sœur Marthe dit de Jésus, elle dit qu'il est le Messie. Elle dit qu'il est le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marie aussi a compris tout ça au travers de ce miracle. Et Marie n'est pas la seule à avoir vécu un miracle. Car est-ce que vous connaissez le nom du pharisien qui a invité Jésus ? Petite idée ? Soyez pas timide. Allez, je vais vous aider un peu. L'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc nous donnent son nom. Dans Matthieu 26 au verset 6 et dans Marc 14 au verset 3. C'est pratiquement le même verset. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Donc ce pharisien s'appelle Simon le lépreux. Mais c'est bizarre comme nom. C'est pas tellement un surnom affectueux. Si ? Non, hein, on est d'accord. Être lépreux, c'est pas tellement une bonne chose. Aujourd'hui, c'est le cas, mais à l'époque, c'était pas le cas non plus. C'était pas une bonne chose d'être lépreux. Et quand on lit le Lévitique, on a quelques informations sur qu'est-ce que ça a comme conséquence sur votre vie sociale lorsque vous êtes lépreux. Donc on peut lire Lévitique chapitre 13 et verset 45. D'ailleurs, c'est même pas obligé d'être lépreux. Si on est juste soupçonné de lèpre, voici ce qui se passe. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur ! Impur !» Couvrir la barbe, hein ? Ça fait penser au masque qu'on avait pendant le Covid. Verset 46, « Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. » Isolement, confinement. Et il n'y a pas que ces dernières années qu'on vit ce genre de choses. Déjà avec la lèpre, on vivait ça il y a quelques milliers d'années. Alors, est-ce que c'est ce que ce pharisien, Simon le lépreux, fait ? Est-ce qu'il est à l'extérieur de la ville, isolé, en train de crier qu'il est impur, impur ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il est guéri. Tout simplement, il invite à un repas parce qu'il est guéri. Et qui l'a guéri ? Qui a pu guérir une maladie dont on ne guérit pas ? Jésus. Alors, la Bible ne le précise pas, mais on le comprend tout de suite, ça semble évident. Et il est guéri. Son surnom est resté, parce que ça faisait certainement des années que tout le monde l'appelait Simon le lépreux. Donc son surnom est là, mais la guérison a pris place. Et pourtant, malgré ce miracle qu'il a vécu, il porte ce jugement. Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Il porte quand même un jugement malgré ce qu'il vient de vivre. Nous aussi, nous vivons tout au long de notre vie des miracles. Malheureusement, on ne s'en rend pas toujours compte. Et quand on s'en est rendu compte, des fois, on oublie qu'on a vécu des miracles. Un peu comme Simon, en fin de compte. Et il y a des fois des situations qu'on ne comprend pas, où on se met à juger Dieu. C'est tellement vite fait. On s'attendait à une réponse, mais cette réponse n'arrive pas, ou pas de la manière dont on l'avait attendue. Et du coup, ben, on est mécontent. Dieu s'est trompé, Dieu n'écoute pas. Aïe, aïe, ça nous arrive, hein, ce genre de choses. Mais Dieu ne se trompe jamais. Le plan de Dieu, il est parfait. Même si on ne le comprend pas, même si ça nous dépasse. Et il entend nos prières. Même quand nous disons des choses que nous ne devrions pas dire. Seigneur, pourquoi ? Et il le sait, il connaît l'état de notre cœur. Et c'est vrai que des fois, on passe par des situations qui sont très douloureuses, où on a du mal à prier, où on a du mal à exprimer oralement, où on n'a plus finalement que la force de pousser des soupirs. Mais même ces soupirs, pour Dieu, ils ont du sens. Dieu sait ce que nous avons dans le cœur. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 26. « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Quand on est à bout de force, le Saint-Esprit en nous vient prier pour nous, vient intercéder en notre faveur. Parce que Dieu nous aime. Et Jésus, dans son amour, eh bien, il va aussi reprendre le pharisien avec douceur. Il va le faire au travers d'une parabole. Ah, on sait, Jésus, il a l'habitude des paraboles. Et voici ce qu'il va dire dans Luc au chapitre 7, verset 40. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle !» répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel des deux l'aimera le plus ? Qu'est-ce qu'a répondu Simon ? Celui qui a donné 500, effectivement. Mais il aurait pu persister dans son attitude de jugement vis-à-vis de Jésus. Ça nous arrive, non ? Des fois, on sait qu'on a tort, mais on persiste. Je plaide coupable. Mais c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Non, Simon, lui, il va accepter en fait que Jésus le reprenne. Dans Luc chapitre 7, verset 43, Simon répondit « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » C'est vrai, Simon était en train de nourrir des mauvaises pensées, mais lorsqu'il se met à l'écoute de la parole de Jésus, ses pensées, elles sont changées. Alors, voyant que Simon est à l'écoute, Jésus l'encourage, tu as bien jugé. Et comme l'oreille de Simon est désormais attentive, eh bien Jésus lui révèle un petit peu plus de choses, car en réalité, il n'y avait pas que les pensées de Simon qui posaient problème. Il y avait toute l'attitude qu'il avait eue depuis le début du repas. On peut continuer au verset 44. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison. et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. » Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. « Tu ne m'as pas donné de baiser. » Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. « Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. » Mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Autrement dit, ce que Jésus dit à Simon, c'est qu'il est pharisien, c'est qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir sur la façon de bien accueillir quelqu'un chez lui. Il connaît toutes les règles, mais là il est passé complètement à côté. Et cette femme qu'il était en train de juger, eh bien elle, non seulement elle a fait tout ce que lui n'avait pas fait, mais elle a fait même au-delà. Ça remet en place. Hein. Et si je me mets à la place de Simon, eh bien, je me sentirais tellement triste d'être dans cette situation comme ça, de me rendre compte que c'est vrai, j'ai juste fait n'importe quoi, j'ai pas fait le minimum. Mais en fait, si je suis tout à fait honnête, si je regarde à ma propre situation, est-ce que des fois je me comporte comme ça? En vrai. C'est vrai, je sais comment on fait pour bien se comporter. Je sais comment un chrétien est appelé à être et à vivre. Comment un chrétien doit se comporter vis-à-vis des autres. Mais est-ce que je le fais à chaque fois? Est-ce que par moment, j'ai juste pas envie? Ou alors j'ai oublié. Oups. Et la réprimande, même dite avec douceur, des fois c'est dur quand même. C'est dur à encaisser. Pourtant, voici ce que nous dit Jésus dans Apocalypse au chapitre 3, verset 19. « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen. C'est parce que nous sommes ses enfants que Jésus prend le temps de nous réprimander, prend le temps de nous interpeller, qu'il prend le temps de nous montrer ce qui ne va pas pour que nous puissions changer d'attitude, avoir une meilleure attitude, qui soit mieux conforme à sa parole. C'est parce qu'il nous aime. Quand on est un parent, on réprimande son enfant parce qu'on veut son bien, parce qu'on veut qu'il grandisse droitement. C'est ce que fait Jésus avec nous, tout simplement. Et il dit bien, si on accepte tout ça, eh bien, il viendra manger avec nous. Il viendra se mettre autour de cette table parce qu'il est en paix avec nous, parce qu'il est en accord avec nous, parce qu'il y a cette réconciliation. Je ne peux pas m'empêcher de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où je me suis mal comporté, pour toutes les fois où mes pensées n'ont pas été les bonnes. Et je crois que c'est ce que chacun en est appelé à faire, à se poser la question, est-ce que mon attitude a toujours été la bonne? Que Dieu nous aide vraiment à écouter. Lorsqu'il nous interpelle, lorsqu'il nous montre que notre attitude doit changer. Je vous propose de conclure ce message avec ce que Jésus dit ensuite. Dans Luc au chapitre 7, verset 47, Jésus va compléter ce qu'il va exprimer au travers de ce moment sur cette femme. Il dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. » Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme ? qui pardonne même les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. En réalité, on a l'impression que quand Jésus dit ça, c'est comme si il y avait plusieurs grades entre ceux avec qui on a beaucoup pardonné, d'autres moins pardonné, etc. Mais en fait, Jésus nous parle du péché. Et on est tous pécheurs. Finalement, on est tous, en réalité, au même grade. Le péché nous conduit à la mort. Il n'y a pas de grand péché, de petit péché. Non, le péché nous conduit au jugement et à la mort, qui que nous soyons. Mais parfois, on n'en a pas toujours conscience. On n'a pas toujours conscience qu'on a besoin d'être pardonné. Un peu comme ces pharisiens, si vous vous rappelez, lorsque Jésus mangeait avec des pécheurs, il y a des pharisiens qui sont venus l'interpeller. On peut le lire dans Marc, au chapitre 2, verset 16. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Si on est convaincu d'être juste, alors on reste dans notre péché, tout simplement. Mais si nous comprenons que nous sommes pécheurs, que Jésus est venu pour nous pardonner, qu'il est venu pour mourir à notre place, qu'il est ressuscité et assis à la droite du Père, alors Jésus nous rend purs. Il nous lave de toute la salissure du péché. Et il nous accueille les bras ouverts dans son royaume. Amen. Et cette femme qui est venue verser du parfum sur les pieds de Jésus, elle l'avait bien compris. Et les promesses de Jésus, pour elle, elles avaient plus de valeur que tout ce qu'elle possédait. Nous avons parlé de l'attitude des disciples. On a parlé de l'attitude de Simon le lépreux. Mais ce qui compte vraiment ce matin, c'est quelle attitude nous allons avoir. Quelle est notre attitude? Quel choix nous faisons? On ne peut pas continuer notre vie comme si de rien n'était. Enfin si, on peut. Mais c'est un choix qui a des conséquences. Mais on peut aussi choisir de prendre un nouveau cap, de prendre un nouveau départ ce matin. Et comme Jésus l'a dit, on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 3, 19, « Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Amen. Ah, Seigneur Jésus, je vais me placer devant toi, Seigneur, ce matin, avec tous mes frères et sœurs. Seigneur, tu as choisi de nous parler, Seigneur, de l'attitude des disciples et de Simon ce matin. Seigneur, je veux vraiment me sentir interpellé. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon attitude, tu sais quel est mon état de cœur, quelles sont mes pensées, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas agi comme j'aurais dû agir. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pensé d'une façon qui te glorifie, Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai été dans le jugement. Seigneur éternel, viens changer mon cœur. Viens transformer mon cœur, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que si tu es venu nous interpeller, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que nous sommes tes enfants et que tu veux notre bien. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci parce que tu veux que nous puissions venir à table avec toi, Seigneur, dans ton royaume, que nous puissions vivre cette réconciliation, que nous puissions vivre, Seigneur, cette proximité avec toi, Seigneur, que nous puissions être dans ta présence, que nous puissions participer au repas des noces de l'agneau, Seigneur, dans ton royaume. Seigneur, tout ça, tu nous le promets.
Et Seigneur, je veux y participer. Je veux, Seigneur, que ma vie t'honore, que ma vie te glorifie, Seigneur. Que chacune des vies de mes frères et sœurs puisse t'honorer et te glorifier, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu, que par ma chair, tout ça, c'est difficile. J'en suis incapable. Mais je crois, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, qui vit en nous, Seigneur, tout cela devient possible. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et tu te manifestes. Seigneur, notre confiance, elle est en toi. Aide-nous, Seigneur, chaque matin à remettre notre confiance en toi une nouvelle fois. Aide-nous chaque matin, Seigneur, à choisir de marcher dans tes pas, à choisir, Seigneur, d'avoir l'attitude que tu nous demandes d'avoir, à avoir les pensées que tu nous demandes d'avoir, Seigneur. Éloigne-nous de tout esprit de jugement. Éloigne-nous, Seigneur, de toute situation, Seigneur, où nous sommes mal disposés, mais viens transformer nos cœurs pour que nous puissions agir comme toi tu agirais. Que notre caractère puisse être comme ton caractère, Seigneur. Que vraiment ton esprit en nous puisse porter un fruit digne de la repentance, digne de ton royaume, Seigneur. Oui, mon Dieu, sois honoré, sois glorifié, Seigneur éternel. Merci pour tout, mon Dieu. Amen.